L'agité du local.
Du lundi au vendredi
à 12h15. Sur le 100. Attends. Sur le.
Sur 107.9, 101.7.
Sur notre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine de la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 février. Bonjour Claire, comment ça va ?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct à Château-Gontier et ça fait plaisir pour ce lundi.
Et oui, pour ce lundi, première semaine des vacances peut-être pour certains, en tout cas pour les enfants, mais pour nous ça ne change rien. On continue évidemment cette émission, avec justement Maxime Sorel qui est allé rencontrer des collégiens, c'était en fin de semaine, et notamment donc vous entendrez les collégiens à Château-Gontier, c'était vendredi, avec des questions parfois surprenantes, mais toujours dans la bonne humeur, vous l'entendrez. Vous aurez aussi la chance d'entendre Nicolas Potier, c'est le président du district de football de Mayenne, et il se présente pour les élections de la FFF au niveau fédéral, on en parlera. Et puis, on vous l'a un peu expliqué la semaine dernière, c'est un peu particulier cette semaine pour les feuilletons, on s'est dit pourquoi ne pas faire un feuilleton une semaine sur l'autre. Et donc ce sera le dernier épisode du feuilleton écolo avec justement un zoom sur l'action et les missions du relais et de Dingue Fringue en Mayenne.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, les chiffres de l'épidémie baissent en Mayenne.
Et bonne nouvelle, le taux d'incidence est repassé en dessous la barre des 100 en Mayenne, à 89,1 cas de Covid pour 100 000 habitants, 4% des tests sont positifs, mais 71 personnes sont toujours hospitalisées, dont 10 en réanimation.
À Martigné-sur-Mayenne, il reconnaît avoir dégradé des armoires de fibres optiques.
C'est un ancien salarié d'un sous-traitant d'installation de fibres optiques qui a été arrêté en Loire-Atlantique. Reconnaît avoir coupé les câbles. Pour expliquer son geste, le suspect parle d'un litige avec une société pour laquelle il a fait de la sous-traitance. 500 clients, on le rappelle, ont été privés d'internet sur les communes de Martigné-sur-Mayenne, mais aussi Sassé, Commères et la Bazouge des Alleux. Il en restait encore 130 ce vendredi soir. Mayenne Fibre a porté plainte pour les dégradations. Le mis en cause comparaîtra devant la justice le 26 mars prochain.
Un nouveau maire élu ce soir à Saint-Pierre-sur-Orthe.
Une nouvelle élection qui intervient après les démissions de Didier Delbianco, le maire délégué de Saint-Pierre-sur-Orthe, et de Martine Vanier, maire de la commune nouvelle de Vimartin-sur-Orthe. Martine Vanier qui avait été élue par une voix d'avance face à Patrick Montjoin, avant de démissionner après une irrégularité de scrutin. Les 33 conseillers municipaux de la commune nouvelle élisent donc ce soir leur nouveau maire.
Le festival des reflets des cinémas africains reporté.
On s'en doutait, hein, il devait se tenir normalement ce printemps. Les cinémas étant toujours fermés, le festival est reporté du 1er au 10 octobre prochain, avec une programmation de 50 films enrichis depuis l'édition annulée en 2020. L'association organisatrice Atmosphère 53 espère toujours maintenir ses séances de cinéma en plein air cet été.
Testez vous-même des cours de l'université.
C'est ce que propose l'UCO à Laval aux élèves de première et terminale ce mercredi et vendredi. Avec l'Université catholique de l'Ouest, vous pouvez donc suivre ce vendredi de 9h à 11h un cours de sémiologie de l'image et ce mercredi de 10h à midi un cours de modélisation 3D, les deux évidemment en visioconférence, accessible sur inscription préalable sur le site laval.uco.fr.
Si le ciel jaunit dans ce lundi, pas de panique.
C'est le ciel jaunit ce lundi, petite faute de frappe d'ailleurs. Évidemment, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de pollution chimique, mais bien d'un phénomène naturel. De la poussière de sable du désert du Sahara traverse la France et notamment l'ouest du pays, ce qui peut colorer le ciel en jaune par endroits avec différentes teintes, mais aussi dégrader la qualité de l'air.
Au stade Lavallois, le préparateur physique finalement réintégré.
Mis à pied début février, Sébastien Sergent, le préparateur physique du stade Lavallois, a été réintégré, une nouvelle annoncée dans un communiqué par le club sans autre commentaire.
Le champion de France cadet de saut à la perche est mayennais.
Mathis Prodhomme a réalisé une belle performance hier au championnat de France d'athlétisme en salle. Le licencié de l'UPAC à Château-Gontier a décroché le titre de champion de France cadet avec un saut à 4,65 m, sans pour autant battre son record de 5,21 m, mais il se prépare déjà pour les championnats d'Europe en juillet en Italie. Et puis pour le reportage, comme annoncé en début d'émission, on a assisté à une rencontre entre Maxime Sorel et les collégiens.
Est-ce que...
J'avais mangé des pâtes, en fait.
Des pâtes?
Oui.
Ah ouais.
Mais oui, j'adore les pâtes. C'était même mon repas de Noël et premier de l'an.
Voici l'une des confidences du skipper Maxime Sorel aux élèves du collège Jean Rostand à Château-Gontier, rencontrés ce vendredi. L'occasion de partager son expérience du Vendée Globe et de répondre à toutes les questions, parfois inattendues, mais toujours avec plaisir pour le skipper.
Mais ce que je retiens et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, au vu des questions, on se rend vraiment compte qu'ils ont suivi les 3 mois de course. C'est-à-dire qu'ils posent à la fois des questions sur le début, le milieu et de la fin. Donc c'est génial, c'est un peu un pari réussi parce que c'est vrai que c'est parfois pour certains une découverte d'un milieu maritime qu'ils ne connaissent pas forcément plus que ça, surtout le milieu de la voile. Et ça veut dire qu'ils ont vraiment suivi et qu'ils ont été attentionnés. Et quand on voit comment ils sont enjoués d'être présents aujourd'hui, ouais, c'est que ça leur fait plaisir, quoi. C'est vrai que il faut effectivement adapter un peu les réponses parce que voilà, ils connaissent pas forcément le bateau et le but c'est pas qu'on rentre dans le détail technique des choses, c'est vraiment qu'on raconte l'histoire et l'aventure comme simplement et que eux rêvent à travers ce qu'on raconte et ce qu'on montre. C'est vrai que c'est sympa, je reçois tout le temps des petits mots, alors j'ai même sur les réseaux sociaux avant que j'arrive en classe des élèves qui me disent ah oh, mais c'est incroyable, il paraît que tu viens, j'espère que je vais pas me mettre à pleurer en te voyant, enfin c'est juste hallucinant. Et...
À quelle vitesse il va? En fait, ces bateaux-là, là, on a dépassé les 30 nœuds pour faire la conversion au kilomètre-heure. Vous multipliez à peu près par 2 pour simplifier. Ça fait seulement 60 km/h. Vous allez me dire, mais c'est pas rapide par rapport à une voiture qui avance à 50 km/h dans la ville. Et en fait, il faut savoir que l'eau dans laquelle le bateau évolue, donc la mer, c'est 1000 fois plus dense que l'air. Ça veut dire qu'un bateau qui avance de l'eau, il pousse 1000 fois plus de matière qu'une voiture qui avance dans l'air. Donc en fait, il faudra imaginer une voiture qui essaye d'avancer dans un bain de béton, parce que le béton, c'est vraiment très dense, très lourd, qui essaye d'avancer à 50 km/h, ça devient déjà compliqué.
Ah, c'est impressionnant de le voir, on le voyait à la télé ou sur des photos, mais pas dans la vraie vie. Vous voyez où il était le bateau et du coup, vous voyez qu'il était 13e, 10e, 11e.
Et finalement, bien 10e, Martin, que vous venez d'entendre, est l'un des élèves de la classe de 4e qui a remporté le concours organisé dans les collèges. Il devait faire une vidéo de soutien à Maxime Sorel, supervisée ici par leur professeur Sophie Prioumasson, qui ne voit que du positif à ce projet.
On a travaillé aussi sur la nourriture lyophilisée, voir le kit de survie aussi que les skippers emportent avec eux. Donc on peut se raccrocher vraiment à plein de choses. Retirer le sel de l'eau de mer, c'est plus motivant que si je leur avais présenté ça comme ça. Je suis pas sûre que j'aurais eu le même engouement que là, savoir comment Maxime Sorel se débrouillait pour boire sur son bateau. Là, tout de suite, présenté comme ça, c'est plus intéressant. Quand Maxime a cassé sa voile, on avait regardé quand son bateau s'est couché, les élèves suivaient ça, donc ils arrivaient le matin, on a vu Maxime, son bateau s'est couché. C'est vraiment motivant et puis ça crée vraiment une fédération dans le groupe classe. C'était vraiment, vraiment bien.
Le skipper se rendra mi-mars dans différentes écoles primaires et planche avec son équipe sur une rencontre, probablement en visioconférence, avec le grand public. On change de sport d'ici quelques minutes, on lâche la voile pour les crampons, puisque vous pourrez entendre Nicolas Potier, le président du district du football de Mayenne, qui se lance dans les élections fédérales de la FFF. Ce sera dans 3 minutes, juste après Mac Miller avec Blue World.
Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip, hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just
laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind, reality so hard to find. When the devil tryna call your line, but shit, I always shine. Even when it light dim, no, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. It's a flex, just a bit. Let me talk my shit, say my head got bit. Yeah, well, listen, man, world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip, hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip, hey, yeah. I let it go, but I never go with it.
De Mac Miller sur l'autre radio. Vous êtes toujours à l'écoute de l'agité du local. Quelques mois seulement après son élection au district de la Mayenne, le Changéen Nicolas Potier se lance dans les élections fédérales de la FFF, la Fédération Française de Football, auprès de Frédéric Thiriez, l'ancien président de la Ligue de Football Professionnel. Mais alors, déjà, première question, tout simplement, pourquoi faire ce choix ?
Alors, tout simplement répondre à une sollicitation. On est venu me chercher, pour tout vous dire. Et après réflexion et après échange avec Frédéric Thiriez, j'ai trouvé son discours à l'image du besoin nouveau que le foot doit, je dirais, faire face avec la contrainte du Covid. Et comme dans tout jeu démocratique, il y a toujours la place à plusieurs projets. Et pensant qu'il y a la voie aujourd'hui à un nouveau projet, c'est dans cette optique que j'ai décidé d'accompagner Frédéric Thiriez sur cette élection à la Fédération.
Donc, vous faites partie de cette liste de 12 personnes. Quel message, vraiment, quelles actions est-ce que vous voulez mettre en place et porter ?
Là, clairement, c'est porter le message des territoires, je dirais, un peu ruraux. La Mayenne est une terre de foot, comme on le sait. Nous avons la chance d'avoir un noyau dur de 20 000 licenciés sur l'ensemble du département. Et je pense qu'aujourd'hui, l'institution fédérale, qui représente plus de 2 millions de licenciés, doit être capable d'entendre les messages les attentes des clubs amateurs, des territoires ruraux, et c'est avant tout cette voie-là que je souhaite porter, au-delà, je dirais, de mon ancien parcours d'arbitre, auquel aussi je souhaite apporter une pierre à l'édifice et au projet de Frédéric Thiriez.
Puisque, justement, en ayant été arbitre international, j'imagine que forcément cette expérience-là, elle va vous servir pour la suite ?
Oui, alors l'idée, c'est au travers mon expérience d'arbitre qui s'est terminée maintenant il y a 5 ans, mais aussi remettre à contribution mon autre casquette que j'ai pu avoir en tant que conseiller technique en arbitrage au sein de l'ancienne ligne du Maine jusqu'en 2017. Nous avions fait valoir un certain nombre d'initiatives qui avaient été reprises au niveau fédéral, qui depuis ont été arrêtées sans explication majeure, mais qui avaient donné des résultats, qui avaient permis de mettre en avant des savoir-faire. Et c'est aussi sur ces sujets-là que je souhaite remettre un peu de un élan nouveau, on va dire, et apporter, je dirais, ce souffle nouveau sur sur les formations d'arbitres, sur l'accompagnement des arbitres, parce que comme vous le constatez, comme le constat est fait au niveau de la fédération, moins 3 000 arbitres alors que l'objectif était de faire plus 5 000, l'échec est cuisant et aujourd'hui on doit être capable de se servir des initiatives locales pour permettre un meilleur dynamisme et une relance du nombre d'arbitres sur toute la France.
Puisque quel est le problème là? C'est vraiment un manque d'arbitres ou de formation arbitrale au niveau amateur?
Non, je pense que le problème est plus global. C'est d'avant tout un problème d'image et de refus d'autorité. Mais je pense qu'à un moment, on a été capable de mettre en place des choses structurantes pour la formation des joueurs, pour la formation des éducateurs. Et je pense qu'on doit aussi mieux accompagner les arbitres, mettre davantage de choses, peut-être tout simplement, comme je disais tout à l'heure, en accompagnant de manière plus poussée les arbitres, en professionnalisant certainement plus les choses, et puis surtout amener de la proximité, parce que rien de tel de mieux que la proximité pour faire du travail de fond, et sans cette proximité, on le voit, les résultats sont pas à la hauteur.
Le problème aussi pour vous aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment ce décalage entre le foot amateur, on va dire, du celui qu'on voit, alors c'est caricatural, hein, mais en gros le dimanche au stade, et puis le foot vraiment, la Ligue 1, et voir les meilleures équipes de Ligue 1 avec des budgets faramineux.
Exactement, et je pense qu'il y a un amalgame qui se crée du coup au niveau du grand public. Aujourd'hui, quand vous parlez d'argent dans le foot en général, oui, il y a de l'argent, mais pour le monde amateur, nous sommes comme toutes les autres fédérations, nous sommes en difficulté. La crise du Covid accentue ces difficultés, et on doit être capable de tout faire pour mieux accompagner les vrais pratiquants, ceux qui font la base, ceux qui font la force du football. Puis il faut pas oublier que tous ces joueurs professionnels ou tous ces joueurs talentueux qui arrivent en équipe de France sont un jour passés par ces petites structures, et c'est bien là l'important de pouvoir accompagner, aider et développer les toutes petites structures, justement pour permettre à notre foot en France de perdurer et de se développer.
Vous parliez justement de la crise sanitaire et de son impact sur les clubs. On sait que c'est difficile en tout cas de s'entraîner. Là, les championnats amateurs sont à l'arrêt. Il y a juste la petite parenthèse Coupe de France. C'est encore plus important en cette période en tout cas d'accompagner les clubs et de porter leur message aussi.
De porter le message obligatoirement parce que c'est eux qui souffrent au premier abord. Et puis de deux, c'est d'essayer de trouver un nouvel élan et un nouveau schéma aussi de fonctionnement. Parce que ça veut dire que les méthodes d'avant ne seront peut-être plus celles de demain, que le fonctionnement des institutions, que ça soit la fédération, la ligue ou le district, devront obligatoirement revoir la manière de faire et leur approche avec les clubs. Et sans nouvelles réflexions, sans nouvelle vision du sujet, on risque d'avoir de nouvelles difficultés. Donc à nous d'être innovants et d'essayer de trouver justement des adaptations nouvelles afin de permettre à tout le monde de rebondir au mieux après cette crise du Covid, qui pour l'instant, en plus, on voit pas forcément de lendemain, j'irais pour l'instant très positif, mais il faut absolument qu'on puisse garder justement cet optimisme, et puis d'envisager les choses sereinement, avec des choses nouvelles, en n'ayant pas peur d'aller sur des schémas qui n'ont jamais encore été exploités, et puis ça permettra très probablement au foot de sortir grandi de cette situation et de cette crise sanitaire.
Qu'est-ce que vous pensez à quoi justement? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que les entraînements puissent enfin reprendre?
Clairement, le district n'a pas vocation derrière, ni les institutions, je pense, à avoir la main. Aujourd'hui, on peut peut-être avoir quelques idées, mais aujourd'hui, clairement, sur une crise sanitaire de cette ampleur-là, il convient déjà de penser avant tout à la santé des uns et des autres, et de vouloir passer le sport avant tout me paraît déraisonnable, mais par contre, on doit être capable de trouver justement des adaptations pour permettre à chacun et chacune de pouvoir pratiquer son sport favori dans un cadre, qui protège tout le monde, mais on peut pas non plus vouloir faire comme s'il se passait rien autour de nous. Et avant tout, à mon sens, c'est la protection de chacun d'entre nous qui doit quand même rester maître mot dans cette situation difficile.
Est-ce que ça pourrait être une solution, par exemple, le protocole qui a été mis en place pour les matchs en Coupe de France avec plusieurs tests à plusieurs jours d'écart, où ça a été aussi critiqué parce que très compliqué à mettre en place?
Compliqué, et puis financièrement, comment vous faites, hein? Est-ce que la priorité est d'aller faire tester des gens pour aller jouer un match de foot ou pour aller travailler? À un moment, il faut aussi qu'on garde raison gardée. Et à savoir quelle est la priorité pour chacune et chacun d'entre nous. Aujourd'hui, aller faire deux tests PCR pour jouer un match de coupe, ça n'a pas vraiment de sens. L'impact financier, imposer des médecins sur les matchs, tout ça, c'est bien effectivement sur quelque chose exceptionnel. Mais dupliquer sur un ensemble de matchs amateurs sur 2 millions de pratiquants, vous comprenez bien que ça serait complètement, irréalisable. Et puis, ça serait pas sérieux, à mon sens, de l'envisager.
Donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a que du coup le Stade Lavallois et les enfants, en fait, globalement, qui jouent.
Oui, globalement, c'est un peu ça. Et puis, on est sur des entraînements qui ressemblent pas spécialement non plus à de la pratique, normale de football, puisque les contacts sont toujours autorisés, les oppositions non plus. Donc, c'est juste permettre de garder avant tout, une activité physique, hein, on va dire. C'est un peu l'idée. Et puis surtout le lien social, parce qu'on s'aperçoit très vite que moralement, les gens, ça pèse sur le moral de chacune et chacun d'entre nous, et que le sport est une véritable bouée d'oxygène pour chacun et chacune d'entre nous, et encore plus pour les enfants. Donc c'est vraiment ça qu'il faut vraiment voir, garder ce contact, social, et puis le défoulement, d'une pratique sportive qui, on le sait tous, apporte quelque chose de bien à chacun et chacune d'entre nous.
Donc oui, c'est aussi pour ça que tous les entraînements, donc même sans contact, mais auprès des enfants, ont été maintenus. Pour revenir du coup à cet engagement sur la liste de Frédéric Thiriez, donc là, les élections auront lieu le 13 mars, c'est ça ?
C'est bien ça, le samedi 13 mars.
Et donc, si vous êtes élu, est-ce que vous resterez aussi donc à la présidence du district en Mayenne, et quelle est la suite ?
Oui, alors clairement, il ne s'agit pas de fuir au bout de 4 mois la présidence du district. Les deux n'empêchent pas l'un et l'autre, d'ailleurs. C'est même complémentaire. Et le fait que Frédéric Thiriez décide de s'entourer aussi de gens du terrain, si vous regardez la conception de sa liste, on est loin d'une liste politique ou de calcul, idéologique. C'est une liste de terrain, que ça soit les personnalités figurant sur cette liste, les pratiquants figurant sur cette liste, ou les présidents de district, puisque nous sommes 3 présidents de district, hein, ça prouve la volonté de s'appuyer sur le terrain pour construire ce nouveau projet. Et c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai accepté de relever ce défi. C'est un vrai défi, hein, d'ailleurs, qui s'engage à nous. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui est possible. Et puis après, c'est aussi le jeu démocratique, hein. Une élection est là pour faire vivre, la démocratie d'un sport. Et puis après, les élections, le résultat passera. Et puis après, ça sera le football qui prime, peu importe, le résultat.
C'est là encore une nouvelle manière de vous engager dans le foot. Dans votre vie, vous aurez eu pas mal de casquettes. Là, c'est plutôt l'idée d'impulser des décisions qui vous intéressent maintenant ?
Clairement, le fait de pouvoir rendre ce que l'on a bénéficié à un moment, et puis peut-être que, pour pouvoir faire avancer les choses aussi, c'est passer par de l'engagement, et l'engagement sur le terrain. Le fait d'avoir été contacté, c'est aussi probablement une reconnaissance du travail qui a pu être effectué par le passé. Et aujourd'hui, je me dis que, à 40 ans, c'est le moment de s'investir. On reproche trop souvent à plutôt des plus jeunes de s'investir. Donc, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, hein, ça reste une expérience. C'est pas vital pour moi. C'est même pas vital pour personne. C'est juste une question de projet, une question de vision de choses. Et aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il est temps de changer les choses, d'accorder plus d'importance à la voix du foot amateur. Si vous regardez autour de nous, il faut de la il faut une démocratie participative, il faut que les gens puissent donner leur avis. On ne doit pas être capable forcément de demander l'avis sur tous les sujets, mais il y a des sujets sur lesquels on doit être capable de prendre l'avis et de d'avoir une réflexion plus globale et puis de surtout s'intéresser à ce qui se fait vraiment sur le terrain. C'est hyper important.
Les élections à la FFF auront lieu le samedi 13 mars. Deux autres listes sont aussi engagées, celle du président sortant Noël Le Graët et du conseiller de club Michel Moulin. On revient d'ici quelques minutes, juste après avoir écouté Sun Yoto avec Salty Feet. L'autre radio, et comme tous les lundis, vous allez pouvoir découvrir un nouveau coup de cœur littéraire de Christophe, que je vous laisse donc découvrir. Christophe de Emlyre Anjou.
Emlyre Anjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Quelle joie de retrouver cette auteure irlandaise que j'affectionne particulièrement, à savoir Claire Keegan. Claire Keegan, je l'ai rencontrée il y a quelques années avec un premier roman et aussi un recueil de nouvelles qui m'avait vraiment enchanté. Et bien là, elle revient toujours aux éditions Sabine Vespizer avec un court roman qui s'intitule « Ce genre de petites choses ». Alors le titre est un petit peu bizarre, un petit peu long, il ne veut rien dire et il veut tout dire à la fois, parce que dans ce court roman, Claire Keegan va nous raconter l'histoire d'un homme. Il s'appelle Bill Furlong. Il est marchand de bois et de charbon dans une petite ville de New Ross, en Irlande. Nous sommes en toute fin d'année 1985, là où tout le monde commence à préparer les fêtes de Noël. Et Bill Furlong, lui, eh bien, il travaille. Il travaille vraiment beaucoup. Petite entreprise, grande famille. Et il est là pour subvenir aux besoins des gens. Et un jour, en allant fournir du bois dans un couvent auprès des sœurs du bon pasteur, en fait, il va découvrir des choses assez bizarres dans ce couvent. Il y sent une ambiance bizarre, il y sent une exploitation de femmes qui sont amenées à faire des travaux de blanchisserie. Et un jour, il va vraiment mettre le doigt là où ça fait mal. Alors, dans une société qui est presque muselée par le silence, la religion faisant foi, eh bien, Bill Furlong, lui, ne va pas se laisser impressionner. Il va écouter son cœur et il va faire ce que personne ne fera ou n'aurait fait à sa place. Et voilà comment un simple homme peut devenir aussi une sorte de héros ordinaire. Je vous laisse découvrir le livre de Claire Keegan qui s'intitule « Ce genre de petites choses ». C'est un bijou de roman vraiment puissant, bouleversant et tout en finesse. Aux éditions Sabine Vespizer.
Retrouvez « Aime lire en joue » 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Cette chronique, vous pouvez la réécouter comme d'habitude sur l'autreradio.fr. Et puis, la chronique est aussi diffusée tous les mardis à 7h30 pour les plus matinaux d'entre vous. On poursuit et on termine d'ailleurs notre mini-feuilleton cette semaine autour des gestes écolos du quotidien avec un autre réflexe qu'on vous propose peut-être d'adopter. Ne plus jeter tous les vêtements que vous ne portez plus justement et éviter de n'acheter que des vêtements neufs. C'est la mission de la SCOP du Relais Bretagne dont Pascal Milleville est le responsable. Vous avez certainement déjà croisé ou peut-être même utilisé leurs containers dans lesquels vous pouvez déposer vêtements et chaussures que vous ne portez plus.
Nous, il y a une première étape effectivement qui est la collecte. Donc on a des personnes qui vident les containers et suite à cette collecte, donc c'est amené sur un centre de tri qui est basé donc à Assigné à l'est de Rennes. Et le tri est organisé donc sur cet espace de tri avec des personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement valoriser au mieux les vêtements qui ont été déposés dans les containers. Et c'est vrai que sur notre activité textile, on a effectivement beaucoup de vêtements qui sont réutilisés en tant que vêtements. Alors soit à travers les boutiques Dingfring, donc qui sont des boutiques du réseau du Relais. Donc là, on va retrouver les vêtements de très bonne qualité, tout ce qui est neuf, quasi neuf, qu'on va réorienter vers la commercialisation locale. Donc on a effectivement une boutique à Laval. On a des vêtements qui sont revendus sur, je dirais, le standard à des prix très accessibles, avec des vêtements adultes à 5 euros ou des vêtements enfants à 2,50 €, ou d'autres vêtements de marque qu'on valorise un peu plus, mais tout en étant sur des tarifs très très intéressants par rapport à ce que pourrait coûter le vêtement de marque. C'est effectivement 5% de notre collecte qui est effectivement orientée vers les boutiques Dingfring. Ensuite, on a une autre possibilité de réemploi des vêtements, et plutôt là orientée vers d'autres pays, et entre autres l'Afrique. On a créé 3 relais au Burkina Faso, au Sénégal et à Madagascar. Et on est toujours sur du réemploi parce qu'il s'agit bien d'envoyer des vêtements qui correspondent aux besoins. On ne va pas envoyer des déchets, on ne va pas se libérer de nos déchets en France et les envoyer en Afrique. C'est bien des vêtements réutilisables pour les besoins des personnes là-bas. On a aussi des produits qui ne sont plus du tout utilisables en tant que vêtements, qu'on va là orienter plus vers le recyclage. Donc le relais a développé il y a une dizaine d'années maintenant un produit issu du recyclage textile, c'est un isolant du bâtiment. Donc un isolant textile, c'est des fibres qu'on a récupérées. Et on a en fait mis en œuvre un produit qui va permettre d'isoler les bâtiments. Et ça évite là de pomper sur les ressources naturelles. Et donc toute la partie recyclage, transformation, chiffon, ça représente un peu plus de 30%, 30-35%. Ensuite, on a quelques produits qui vont en fait servir de combustible dans les industries utilisatrices. Hein, et donc là, c'est ce qu'on appelle les CSR, donc combustibles solides de récupération. Ça ressemble un peu à des granulés qu'on pourrait mettre dans un poêle chez un particulier. Sauf que là, ça va alimenter des fours industriels, hein, je pense aux cimenteries ou autres activités. Ça intervient également en termes environnementaux parce que ça permet de moins consommer d'énergie grise. On arrive à valoriser en fait 99,5% de ce qu'on a collecté. C'est-à-dire qu'en termes de déchets, il nous reste que 0,5%, hein, ce qui est vraiment très faible. Alors on essaie de viser le zéro, mais il y a quand même quelques produits où on a des difficultés pour les recycler. Je pense particulièrement au PVC. Et nous qui sommes en Bretagne, ben, l'exemple concret, c'est le ciré jaune. Hein. Ben, on a quelques problèmes quand même pour le recycler, parce que c'est quand même un produit qui est issu du pétrole, hein, et c'est quand même assez compliqué à traiter derrière.
Un temps bloqué à cause de la Covid, les containers sont à nouveau accessibles. Mais Pascal Milleville rappelle qu'il ne faut surtout pas y déposer de masques chirurgicaux ni faire de dépôts sauvages. C'est l'heure de la rubrique Initiative avec toi Claire, et aujourd'hui, jusqu'à dimanche d'ailleurs, un drôle de concours a lieu.
Et oui, intitulé « T'as vu ma trogne ?». C'est un concours photo lancé par le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. L'objectif, photographier des arbres têtards de notre région. Ce sont les arbres qui ont cette forme caractéristique avec un tronc épais dû à un mode d'exploitation ancestral, les tronnages, qui permettaient d'obtenir donc plus de troncs et donc plus de bois pour se chauffer. Chaque participant peut envoyer 10 photos, ainsi 10 participants seront sélectionnés et participeront à une exposition qui arrivera très bientôt. Pour vous inscrire et envoyer vos photos, rendez-vous sur le site internet cpie-mayenne.org.
Effectivement, du nom de l'association organisatrice du concours photo. Et on va prendre désormais la direction de Château-Gontier où on peut colorier pour être affiché.
Et oui, c'est l'opération lancée par la médiathèque de la ville dans le cadre de l'exposition Travaux graphiques de David Michael Clark. Des dessins en noir et blanc sont mis à disposition pour les enfants, adolescents et adultes. Le but, les colorier et les ramener à la médiathèque pour être exposés. Un moment de détente et de créativité avec comme idée de s'approprier ce lieu culturel car tous les dessins sont en lien avec la médiathèque. Les dessins sont à voir et à colorier donc jusqu'au samedi 6 mars.
Merci beaucoup Claire, c'est bien noté. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter sous le nom L'Autre Radio. Évidemment, hein, on a fait le plus simple. N'hésitez pas à nous laisser plutôt vos initiatives dans ce sens-là et vos messages et tout ce que vous voulez nous partager sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Ils seront diffusés dans cette émission qui touche déjà à sa fin. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde et moi je vous retrouve jeudi.
Et oui, désormais, ben oui, tu nous laisses pour 2 jours. Bon, vous inquiétez pas, l'émission sera là, mais sans Claire, donc mardi et mercredi, effectivement. Donc on te dit à jeudi Claire.
Tout le monde.
Et sinon, vous, évidemment, hein, vous restez à l'antenne, puisque à 19h, il y aura Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque de Joël, notre programmateur. Et nous, on se retrouve sans Claire, mais on se retrouve quand même demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.
L'agit du local, rediffusé à
18h15 sur le 107.9
à Château-Gontier
et 101.7
sur Laval.